On m'a demandé de prononcer devant vous le discours d'inauguration de l'année académique. Avouez que c'est intimidant. Ça l'est d'autant plus pour quelqu'un qui, et c'est mon cas, aimerait ne jamais avoir à commencer. Parce qu'il ressent avec acuité la violence de l'assertion, parce qu'il sait la contiguïté de sens entre le commandement et le commencement. Deux mots qui partagent la même racine grecque de l'archê. Il préférerait toujours ne rien inaugurer. Plutôt que de prendre la parole, j'aurais voulu être enveloppé par elle et porté bien au-delà de tout commencement possible. Michel Foucault, L'ordre du discours. Seulement voilà, nous sommes à l'université. Et apprendre à y être, j'allais dire, car au fond cela seul doit nous importer en ce premier jour, apprendre à y être heureux, c'est accepter de tourner à son avantage toutes les contraintes qui la constituent. Non pour s'y soumettre, pas même pour y acquiescer, mais pour se les approprier joyeusement. Cours magistraux, travaux dirigés, évaluations, autant de rituels par lesquels les universitaires font corps. En entreprendre l'archéologie, c'est-à-dire ramener ses pratiques à leur archê, qui en est à la fois le point de commencement et le commandement, c'est apprendre à ne pas se laisser tyranniser par les origines en un geste qui est tout à la fois d'historicisation et d'émancipation. J'en étais là, mes réflexions sur la manière d'apprivoiser mes réticences et me plier de bonne grâce à un tel exercice imposé, lorsque je m'avisais qu'au fond, je n'avais jamais fait autrement, et que c'était cela peut-être que m'avait appris l'université, faire l'histoire de ce que l'on redoute pour déjouer les pièges de la domination, prendre au sérieux les rituels par cette sorte de feinte suprême qui consiste à les prendre au mot, renoncer au détachement ironique qui est la plus délicieuse mais aussi la plus pernicieuse des poses aristocratiques. Donc, avant de m'emparer de l'exercice pour en jouer sérieusement, disons qu'à l'université on n'est vraiment pas sérieux lorsqu'on refuse l'esprit du jeu, il fallait partir en quête de son histoire, de cette histoire des pratiques qui, les ramenant à la situation qui les a constituées, en désarme l'effet d'intimidation. N'est-ce pas cela la critique? Et n'est-ce pas cela la pensée critique que l'université a en charge de transmettre? Ce en quoi elle consiste, vous le savez très bien. Référer les savoirs aux procédures qui les fondent, rapporter les discours au contexte de leur énonciation, expliciter les points de vue en un mot pour parler comme Pierre Bourdieu, vendre la mèche. Alors seulement l'université peut être ce qu'elle n'était pas à l'origine, ce pourquoi elle n'a pas été créée, ce qu'elle n'est que très rarement vérité, mais ce qui pourtant nous a convaincus de nous y consacrer, une école d'émancipation qui transmet pour libérer. Va donc pour le discours d'inauguration de l'année académique. Allais-je rappeler ses origines humanistes, évoquant les précédents glorieux de Gasparino Barzizza ou de Lorenzo Valla, qui imposaient au XVe siècle ces morceaux de bravoure oratoire au cœur de la ritualité universitaire? C'eût été céder à l'envoûtement de l'idole des origines. Certes, l'université est une invention médiévale, et c'est cette institution déjà vénérable que les humanistes italiens du Quattrocento cherchaient à bousculer. Voici pourquoi elle se délecte tant aujourd'hui à parler latin, rappelant le sens générique d'universitas, qui désignait au XIIe et XIIIe siècle toutes sortes de communautés politiques, professionnelles, pourvu qu'elles agrègent des individus en une seule personnalité juridique. En ce sens, l'université que nous connaissons en tant qu'institution de transmission des savoirs est la forme survivante des universitates médiévales qui portaient à la fois un projet d'ordre social et un idéal de l'universel. L'université nomme l'universel, mais elle le nomme en latin, universus, désignant la conversion de tous en un. Plus précisément, elle le nomme dans le latin des clercs, car elle est avant tout une invention de l'Église médiévale. Invention médiévale donc porteuse d'un projet universel. L'université ne cesse de rappeler ses origines lointaines, avec d'autant plus d'obstination qu'elle se sent aujourd'hui menacée, inquiète, désorientée. Méfiez-vous. Dès lors qu'une institution se met à parler latin et à évoquer avec nervosité ses ancrages étymologiques, c'est qu'elle n'est plus sûre d'elle-même. Car cette continuité est un leurre, au sens propre, l'invention d'une tradition. N'écoutez pas les discours, davantage, pas davantage le mien dès lors qu'il se fait pompeux. L'université dans laquelle vous entrez aujourd'hui est une création de la fin du XIXe siècle. C'est la République qui l'a réinventée, laissant croire qu'elle poursuivait une ambition cléricale. Toutes ces formes oratoires, à commencer par le cours magistral, ce monologue ex cathedra, qui est la forme la plus visible de l'enseignement universitaire et dont Françoise Vaquet a montré qu'il ne s'imposait qu'au XIXe siècle, ne ressortent que de notre propre modernité politique. Si l'université d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'université médiévale, c'est parce que cette dernière avait été inventée pour résoudre un problème très pratique de transmission. transmission des pouvoirs et non pas des savoirs. Comment faire en sorte que l'Église ne manque pas de serviteurs alors que la prêtrise n'est pas héréditaire puisqu'elle est vouée au célibat? La sécularisation de l'alma mater au XIXe siècle ne change pas sa fonction, elle réoriente seulement sa destination. L'université demeure machine à enfanter des doctes, mais la destinée des doctes n'est plus de servir l'Église. Jean-Claude Milner de l'Université comme foule. Voici pourquoi l'université ne peut pas ne pas se dire médiévale alors qu'elle ne l'est plus depuis déjà si longtemps. Car c'est bien le moment médiéval qui accomplit une révolution dans la transmission. Celle-ci n'est plus la paideia antique qui reposait sur la parole vive du maître et le rapport direct qu'il avait avec des disciples. Le maître, identifié par son nom et celui de ses maîtres, vaut en tant qu'il est insubstituable. À l'université, le professeur vaut par l'institution. Il est incessamment substituable. Il n'a pas de maître, mais des prédécesseurs. Il n'a pas de disciple, mais des étudiants. Si l'on suit cette réflexion du philosophe Jean-Claude Milner, on comprend que ces mêmes étudiants n'ont pas tort lorsqu'ils oublient le nom même du professeur d'histoire médiévale qui leur fait cours le jeudi matin. Blessant son narcissisme, ils disent pourtant le vrai de l'institution qu'ils servent. Reste qu'entrer à l'université revient à se faire convier au grand festin des noms propres. Non pas ceux des personnes qui vont vous les enseigner, mais bien ceux qui nomment ce qu'il y a désormais à savoir. Voici ce qui sépare radicalement, à mon sens, la transmission scolaire de la transmission universitaire. Cette dernière assigne systématiquement des énoncés à des patronymes. Elle réalise le savoir en lui donnant figure humaine, littéralement en l'incarnant. Elle l'appelle par son nom, par ses noms. Dans la matière que j'enseigne, l'histoire, cela consiste à rappeler qu'il y a des prises de position derrière la reconstitution des faits, des controverses derrière les interprétations, des points de vue derrière les récits, des singularités derrière les sujets que l'on se donne, bref, une historiographie. Mais que faire de tout ce fatras de noms propres, fardeau encombrant de l'étudiant? Et surtout, pourquoi faudrait-il le supporter? Chacun ressent encore d'instinct ce que Nietzsche a dénoncé en 1875 dans sa seconde considération inactuelle, l'inconvénient des études historiques pour la vie. C'est à l'histoire, comme discipline et comme pratique, de démontrer le contraire. Qu'elle peut être utile à la vie, disait Nietzsche, qu'elle peut s'adresser à nos vies, dirait-on aujourd'hui. La phrase de Goethe qu'il plaçait en exergue de son livre mériterait d'être portée au fronton de chaque université. « Du reste, je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire sans augmenter mon activité ou l'animer directement. » Voici ce dont il sera question dans les quelques réflexions qui vont suivre. On peut les lire comme un éloge du détour vers les noms propres de ces amis invisibles que sont les inventeurs des savoirs qu'il y a à transmettre, vers une certaine idée, ancienne mais vivace, de la transmission des savoirs qui s'accommoderait sans peine de la convivialité d'un repas de fête, et pourquoi pas vers ce Moyen-Âge dont se réclame l'université sans toujours se porter à la hauteur de ce qu'universitas veut dire. Puisque nous sommes entre amis et puisque je ne m'adresse pas à vous tous, mais à chacun d'entre vous en particulier, je voudrais vous confier l'histoire de mon commerce personnel avec la Divine Comédie. Borges, conférence, 1980. Ainsi parlait Borges, à l'entame d'une conférence prononcée dans sa ville natale de Buenos Aires en 1977. Il y racontait comment il avait lu ce livre sans savoir l'italien, ou plus précisément en ne sachant d'italien que celui que lui apprenait Dante au moment même où il le lisait. C'est une expérience de l'entre-deux des langues où l'on apprend à n'être ni maître ni ignorant. De cela, de la langue de Dante, nous aurons à reparler. Mais il nous faut commencer doucement, j'allais dire tendrement, non pas avec Dante lui-même, mais juste son nom, le nom de Dante, ou plutôt les noms de Dante. Qu'est-ce qui se joue dans ce nom? Dante Alighieri. Quelle musique et quelle énigme? Qu'est-ce qui passe en lui? Qu'est-ce qui s'y fige? On devrait toujours commencer par là. Je prétends parler d'un homme, mais je ne parle que du nom de l'homme. Et son nom propre, qui entre lui et nous s'interpose, fait écran. C'est-à-dire, on va le voir, qu'il fait obstacle et qu'il fait son cinéma. Si on ne procède pas ainsi, on s'abandonne à l'illusion biographique. Vous connaissez cette expression? L'illusion biographique est le titre fameux d'un article de Pierre Bourdieu, si célèbre qu'il en a sans doute dissuadé plus d'un de le lire, selon un paradoxe dont Pierre Bayard s'est fait le théoricien dans son livre « Comment parler des livres » que l'on n'a pas lu. L'art de ne pas lire les textes au motif que leur titre même peut faire croire qu'on les a déjà lus est en effet une compétence des plus utiles, quoique rarement revendiquée comme telle, pour tous ceux, professeurs ou journalistes, qui font profession d'en parler publiquement. Pour en revenir à l'illusion biographique, comme souvent chez Bourdieu, Un titre très général cache un texte singulier, cinglant, hasardeux, qui repose en grande partie sur une aventure de lecture. En l'occurrence, ici, celle du linguiste Saul Kripke, dont le maître livre « Naming and Necessity » avait été traduit en français en 1986. Il y désignait le nom propre comme ce qui constitue une identité sociale constante et durable, désignant l'être social de manière rigide, par-delà la rhapsodie des sensations. À chaque moment de son existence, un individu pourrait devenir autre qu'il est, et pourtant son nom propre le ramène à l'invariance obstinée de ses devenirs possibles. Voici pourquoi l'histoire a toujours affaire avec l'arrogante souveraineté du nom propre. Dissiper son aura est l'une des tâches de l'historien qui, d'une manière générale, passe son temps à neutraliser la puissance des mots, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils ne produisent pas sur l'esprit des lecteurs, par le jeu subtil des connotations et des anachronismes, des effets incontrôlés ou subreptices. Ignorez-vous tout de Dante ? C'est impossible, car vous savez déjà ce que dantesque veut dire, ou du moins ce qu'il suggère. Dante partage avec quelques très rares auteurs, comme Machiavel ou Kafka, le douteux privilège de baptiser de son nom une angoisse universelle. Comment en déminer la charge ? Quel moyen pour la désamorcer ? D'abord en disant sobrement que pour les historiens de l'Italie communale, son nom reste en partie une énigme. Au complet, Dante Alighieri, il n'apparaît que très rarement sur les registres de la ville de Florence. Le patronyme n'est pas courant, il est celui d'une famille noble mais peu nombreuse, dont les origines remontent sans doute au XIIe siècle. Le poète plaça dans son paradis l'ancêtre de la lignée, son trisaïeul Cacciguida, qui se disait, une aubaine pour un fondateur, fils d'Adam. Le prénom est rare, comme celui de Durante, qu'il reçut le jour de son baptême le 26 mars 1266. C'était un samedi saint, et comme il était de tradition en Florence, on plongea d'un coup tous les enfants nés dans le courant de l'année, Dante avait alors 9 ou 10 mois, dans la cuve du baptistère, mon beau saint Jean, écrira-t-il plus tard. Dante ne serait donc qu'un diminutif de Durante, celui qui dure ou qui endure, un nom prédestiné, en somme, pour l'homme qui fit du chant de son exil une poésie éternelle. Mais quelques années après sa mort, on racontait déjà à Florence une autre histoire. Bella, la mère chérie qu'il perdit à 10 ans, le vit en rêve avant de le mettre au monde. À peine né, l'enfant était debout et se faisait berger pour donner en pâture à ceux qu'il guidait l'eau de la source claire et les baies de l'arbre d'Apollon dont il s'était repu. Bella lui offrit alors le nom qui s'imposait au génie qui s'enfante lui-même, Dante, celui qui donne. Patrick Boucheron, au Banquet des Savoirs, éloge dantesque de la transmission.